L'immobilier dans le bon sens, présenté par Alexandre Toussaint, président fondateur de Baltis Capital.
Bien, bonjour à tous, je suis ravi de vous recevoir pour un nouvel épisode de l'immobilier dans le bon sens. On va aujourd'hui aborder un nouveau sujet, on va essayer de parler un peu du futur avec Benoît Perrault. Salut Benoît.
Salut Alexandre.
Merci de venir aujourd'hui dans les studios de Radio Immo. On va essayer, alors on sait que c'est toujours un peu compliqué de parler du futur parce que comme son nom l'indique, on ne sait pas trop, on n'a pas trop de références. Mais il y a des outils qui existent, notamment Kik, que tu as lancé il n'y a pas longtemps, qui essayent de trouver des chiffres qui se rapprochent du futur pour nous aider dans nos décisions d'investissement, d'arbitrage sur la partie immobilier. Avant de commencer, j'aimerais un peu savoir comment est-ce que tu en es arrivé à vouloir ou devoir peut-être créer un outil de prédiction.
Alors l'idée vient de la société Keys, que j'ai commencé à développer avec mon cofondateur Bertrand en 2018, hein, moi j'étais encore en 2018, qui était l'idée d'accompagner les investisseurs privés dans les investissements du neuf, où il y a une véritable jungle en fait sur la toile, où les particuliers ne savent pas faire trop la différence entre un promoteur, un commercialisateur, une banque, une société de fisc, un CGP. Et on s'est dit, on va rassembler tous les lots sur une marketplace pour accompagner ces investisseurs privés qui puissent acheter selon leurs propres valeurs, selon leur quotidien. Et nous avions créé un algorithme d'ailleurs qui permettait d'orienter les lots sur le quotidien et les convictions de ces acquéreurs. Le Covid est arrivé. Le Covid nous a donné la bonne idée de nous creuser encore un peu plus la tête parce que les gens étaient vraiment perdus. Il y a eu évidemment un grand stress qui d'ailleurs continue toujours d'exister aujourd'hui. Et on s'est aperçu que le taux de transformation avait considérablement baissé. Et pourquoi ? Parce que l'acquéreur a une énorme inquiétude, c'est de perdre l'argent qu'il investit. Donc il fallait qu'on puisse le rassurer sur le fait qu'il ne perde pas et qu'il puisse en gagner. Et donc on s'est focalisé dans l'idée de déceler les marchés qui montent.
Donc c'est les marchés qui montent, c'est les villes, j'imagine, qui montent, ou ça peut être, ou ça concerne aussi potentiellement le bien immobilier ou l'intérieur du bien immobilier.
Alors, on travaille les marchés, donc on travaille des zones. On travaille l'ensemble du territoire français, sauf les deux départements de l'Est où l'open data est un peu plus difficile à obtenir. On va jusqu'à l'IRIS. Hein. L'IRIS, c'est un secteur, l'IRIS au sens de l'INSEE, donc c'est un secteur qui est en moyenne 250-500 habitants. Donc on va sur cette zone-là, donc c'est ultra fin. Alors il y a des exceptions. Mais on va dire que dans la majorité des cas, nous allons à l'IRIS dans les milieux urbains ou dans les zones très habitées parce qu'on a les volumes nécessaires pour pouvoir travailler. Néanmoins, il y a des zones rurales où il n'y a pas assez de volume, il n'y a pas assez de transactions. Donc on a agrandi un peu nos zones d'études.
Parce que quand on se connecte sur des annonces immobilières, par exemple, on voit potentiellement ce qui s'est passé avant. On voit potentiellement ce que ça vaut aujourd'hui, ou comme quand on achète, la banque nous demande une estimation, une expertise même du bien à l'instant T en 2022. Et moi, je me suis toujours dit, le plus important, ce n'est pas forcément le prix d'aujourd'hui, mais c'est le prix de demain. C'est-à-dire qu'on est prêt à acheter cher un bien immobilier s'il va prendre encore plus de valeur. Ça veut dire que jamais personne n'a réussi à faire tourner les chiffres pour essayer d'avoir à 1 an, à 5 ans, à 7 ans, à 10 ans. C'est quoi la barrière à l'entrée, c'est quoi ? C'est la donnée, justement ?
Alors, tu as raison, c'est que déjà, on dit souvent que celui qui gagne beaucoup d'argent en immobilier, c'est celui qui a su acheter. Donc, le point de départ se fait effectivement à l'achat, il se fait pas à la vente. Donc, pour accompagner ces acquéreurs, oui, nous avons travaillé le passé, nous travaillons d'ailleurs encore le passé, parce que toutes les projections que l'on fait aujourd'hui, ce seront peut-être pas moins valables ou peuvent changer dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Il y a des événements qui vont influer les projections. Et nous avons surtout agrégé les facteurs prépondérants à une influence importante sur l'évolution du marché. Donc ça nous a permis de casser, par exemple, des fausses croyances du type Lorsque le TGV arrive dans une ville, le marché explose. Bon, bah en fait, c'est faux. Et on peut le vérifier en Touraine, terre que tu connais parfaitement bien, à Vendôme. Quand le TGV est arrivé à Vendôme, l'immobilier n'a pas bougé. La guerre des betteraves, bon, c'est peut-être pas un bon exemple, mais les betteraves sont peut-être plus chères, mais en tout cas, l'immobilier n'a pas bougé. Donc, ce qui est important, c'est d'assembler des facteurs qui ont une vraie influence sur l'évolution du marché. Et ça, c'est ce que nos data scientists font tous les jours.
Et par exemple, si on prend l'exemple de Vendôme, est-ce que on peut estimer que le TGV a fait monter les prix, mais peut-être quelque chose d'autre les a refait baisser, donc finalement, ça a été flat ? Comment ça s'explique sinon
En fait, c'était flat, exactement, parce que on aurait pu croire que l'arrivée d'un TGV allait développer une économie industrielle ou tertiaire du fait de la proximité de Paris. On a pu croire aussi que ça allait développer un certain nombre une exode urbaine avec l'arrivée de Parisiens ou d'urbains en tout cas dans la région. Et ça ne s'est pas produit parce que l'ensemble des facteurs n'étaient pas réunis pour pouvoir enclencher ce développement.
D'accord. Et alors j'imagine que sur d'autres villes, ça, l'arrivée du TGV a eu un effet sur les prix. C'est juste qu'en fait, c'est pas une généralité. TGV n'est pas égal à prix, enfin hausse des prix. Ça l'est pour certaines villes, ça l'est peut-être pas pour d'autres, quoi.
Alors Bordeaux est un exemple. Lorsque le TGV est arrivé à Bordeaux, quand on cumule l'arrivée du TGV à Bordeaux avec la politique urbaine qui était mise en place de développement sous le maire précédent, Bordeaux a explosé. Et effectivement, on peut même dire que l'évolution de l'immobilier a surperformé par rapport, en comparaison à d'autres villes comme Lyon ou Nantes. Il y a eu une progression beaucoup plus violente.
Et cette surperformance, l'outil donc KIK est capable de le prévoir, entre guillemets ?
Alors, KIK projette. D'ailleurs, nous avons retiré ce mot de prédiction parce que la prédiction rappelait une certaine Madame Soleil qui n'est plus là de nos jours. Non, et puis pour vraiment confirmer que nous avons une approche experte et scientifique. D'ailleurs, les experts immobiliers, j'en ai rencontré un certain nombre, disent que valident le modèle. Donc c'est quand même une grande victoire pour nous parce que l'approche pourrait être un peu plus romancière ou romantique.
Donc là, c'est un outil de quoi, du coup, maintenant ?
De projection.
De projection, OK.
De projection des valeurs immobilières, de projection des plus-values ou moins-values éventuelles. KIK va identifier des secteurs qui vont surperformer. Donc chez nous, c'est la note 5 sur 5. Hein, ça va de 0 à 5, hein, pour être simple. Elle décèle parfois. Alors, je n'ai pas la note exactement en tête, mais il y a une petite ville française qu'on peut travailler, qui est Poitiers, par exemple. Poitiers, effectivement, projette des belles plus-values à 7 ans.
D'accord. Donc, KIK est capable de repérer des anomalies dans les deux sens, quoi. Juste avant qu'on revienne sur les notes là, de 1 à 5, est-ce qu'on peut essayer d'un peu décortiquer comment ces notes sont créées, à partir de quelles données ?
Alors, quelles données les lister, ça serait...
Très long ?
Très, très long, parce qu'il y en a des millions.
Ouais.
Et les data scientists que nous avons chez nous adorent les volumes de data. Donc, il y a même des dizaines de millions. Mais en réalité, c'est les facteurs économiques, les facteurs migratoires. Est-ce qu'on a des gens qui arrivent, on a des gens qui sortent, qui vont habiter ailleurs ou qui viennent s'installer dans la zone ? On a les revenus moyens par ménage. Donc, on a toutes ces données économiques hyper locales avec des évolutions des dernières années, les créations de sociétés, les secteurs d'activité, etc. Toute la partie servicielle, donc les transports, la santé, les écoles et les projets. Et puis, on cale ça aussi avec... un peu l'évolution de mode de vie qui évolue pas mal aujourd'hui. Donc c'est vrai que depuis 2 ans, on constate que des régions ou des villes moyennes ont explosé parce qu'il y a nos modes de vie qui évoluent énormément. Et donc on en tient aussi compte.
D'accord. Et il y a des données un peu extra, on va dire extra-financières, extra-chiffres, comme Bon, évidemment, on peut parler de tout ce qui est écologique, tout ce qui est social, tout ce qui est environnemental. Je crois qu'on avait parlé aussi de la qualité de l'air, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a des choses non chiffrées qui arrivent à rentrer en compte?
Alors, nous sommes en train de les intégrer parce que la data n'existe pas partout. C'est ça qui est un petit peu compliqué. C'est qu'on peut arriver à avoir une approche sur les données environnementales d'un secteur, mais on n'arrive pas forcément à les avoir partout pour le moment. Mais on est en train d'y travailler parce qu'on sait que de toute façon, c'est un sujet. Et nous sommes aussi en train d'intégrer les caractéristiques du bien. Donc là, d'ici quelques semaines, nous allons avoir la finesse liée à l'état du bien. Donc par exemple, est-ce qu'aujourd'hui, il est conforme aux exigences environnementales? S'il ne l'est pas, bah, évidemment, sa progression sera limitée. On va pouvoir pondérer sa projection. Néanmoins, on va pouvoir dire, bah, voilà, si tel et tel et tel travaux sont réalisés, il aura une évolution dans le marché, peut-être un peu plus performante qu'un autre.
Mais pour savoir si l'appartement, enfin le bien immobilier est conforme, ça c'est une donnée ou c'est une déclaration du propriétaire du bien?
Alors, il y a deux sources. Il y a une source, il existe une base avec les DPE. Ouais. Donc effectivement, après il faut savoir dater le DPE, de quand date-t-il, est-ce qu'il n'y a pas eu des travaux entre-temps? Et il y a évidemment un sujet déclaratif du propriétaire. Lorsque c'est un propriétaire qui fait l'exercice, évidemment, c'est déclaratif. Et lorsque c'est un acquéreur, bon, dans la grande majorité des cas, l'acquéreur fait appel à un conseil et le conseil a cette donnée.
D'accord. Donc ça veut dire que ça, donc vous agrégez toutes ces données financières, économiques, sociales, transport, etc. etc. Vous faites tourner les chiffres avec votre outil et c'est là où ça sort une note. Entre 1 et 5 ?
Alors, ça sort un rapport d'une quinzaine de pages en quelques secondes, en moins de 10 secondes. Donc ça, c'est une grande performance. Et ça sort une note de 1 à 5 avec le potentiel de valorisation qui, le maximum, est de plus de 35% à moyen terme. À 7 ans, en fait, on a fait nos projections sur 7 ans. Et pourquoi 7 ans ? Parce qu'Alexandre, qui est un grand professionnel de l'immobilier, va pouvoir me répondre.
C'est la durée moyenne de détention, j'imagine. C'est 7 ans et ça, c'est national.
C'est ouais, la durée moyenne de détention d'un bien immobilier en France.
Ok. En logement ou en...
En résidentiel.
Ok.
Que ce soit une résidence principale, une résidence secondaire ou un invest.
D'accord. Donc ça veut dire que la note est fixe sur 7 ans. Enfin, elle est calibrée sur les 7 ans. On ne peut pas faire varier la durée sur 5 ans ou sur 10 ans.
Non, parce que ça nous obligerait à complexifier encore plus la tech. Et après, il y a beaucoup quand même de variabilités à court terme qui ont des effets ou pas, ou lycée. Donc je pense que voilà, déjà 7 ans, c'est quand même, en immobilier, c'est quand même, c'est demain. Hein, on n'est pas à 15, 20, calé sur, voire 30. Aller sur les prêts immobiliers.
Oui, mais justement, moi, je me dirais, si je dois acheter un bien, bah, j'aimerais bien avoir ce rapport-là, peut-être pour le mettre dans le dossier de financement. Vu que je vais faire un BP sur 15 ans ou sur 20 ans, si je peux avoir une prédiction de la même durée.
Eh ben, on peut le faire. Et la bonne nouvelle, c'est que tu vas pouvoir acheter un rapport tous les ans. Et donc, tous les ans, tu auras ton rapport à 7 ans et tu pourras y aller jusqu'à 30 ans.
Ouais.
Jusqu'à 15 ans.
D'accord, ok.
Parce que c'est un outil vivant.
Et ça, c'est que pour le logement? Donc appartement, oui. Maison, immeuble, c'est pas du tout prévu pour tout ce qui est immobilier tertiaire.
Alors on commence à avoir pas mal de demandes sur le secteur tertiaire. Donc là c'est à l'étude, on est en train d'étudier la profondeur du marché et les datas qu'on peut travailler. Mais oui, ça fait partie des projets.
D'accord. Et même chose sur les loyers. Est-ce que le loyer, autant dans le logement que dans le tertiaire, peut-être aussi travailler avec cet outil de prévision?
Bah, c'est lié de toute façon, c'est lié hors politique de loyers plafonnés sur certains secteurs. Il en découle en fait mécaniquement, effectivement, qu'on va pouvoir avoir une projection sur le loyer.
D'accord. Donc juste reviens sur les notes. Hein. Donc tu disais la note 5, c'est plus de 35% de plus-value à 7 ans sur le bien immobilier en question.
Ouais.
Et la note 1, c'est moins-value ou c'est zéro?
Alors c'est zéro ou moins-value.
Okay.
Donc la moins-value, elle peut aller jusqu'à... Alors des moins-values en moins 35, on n'en a pas vu. Hein, donc en général, les moins-values qui sont projetées sont rarement au-delà des moins 10. Voilà, moins 10, moins 15, c'est rarement au-delà.
D'accord. Et on a une idée de l'augmentation des prix de l'immobilier sur 2020-2021, pour pouvoir comparer. Alors, qui sont peut-être pas les meilleures années, peut-être qu'il faut le lisser, tu vois, mais peut-être les 10 dernières années.
Alors là, on rentre plus dans des sujets d'estimation, qui est quand même une autre, qui est un autre métier. Mais aujourd'hui, les chiffres que l'on connaît, c'est que entre 2020 et 2021, on dit souvent que les prix dans les milieux hyper urbanisés ont plutôt baissé, très peu, hein, stable voire baissé. Et on dit que en région, les prix ont beaucoup augmenté. Mais nous, on raisonne pas sur un an. On peut pas raisonner sur un an.
Et ça veut dire qu'aujourd'hui, qui sont les demandeurs de ce rapport ? Donc il y a les acquéreurs, tout simplement, le particulier qui achète. Ouais. Est-ce que vous travaillez aussi avec les corporates, les courtiers, les banquiers, les assureurs peut-être, les experts ?
Alors là, on discute avec des experts, justement, avec une organisation assez importante qui effectivement voit l'avantage de gagner un temps fou sur les études locales, sur les expertises économiques, sur l'audit en fait du bien à réaliser. Déjà, donc on agrège absolument tout. On a même je sais pas si tu as pu voir à l'avant-dernière page, il y a un petit topo sur le secteur, sur le quartier, sur la vie de quartier, etc. Donc on a même une notion sur la vie locale, il y a un côté très vivant. Mm-hmm. Donc ça, un, ils ont un gain de temps, ça leur évite de dépêcher quelqu'un qui va y aller pendant 2 jours, etc. Et deux, encore une fois, le process et la méthodologie pour arriver à nos projections leur convient. Donc ça les intéresse. Deux, il y a les courtiers d'assurance, les courtiers de crédit, pardon, en crédit immobilier. Les courtiers en crédit, lorsqu'on arrive avec un rapport, avec une projection de plus-value importante ou en tout cas positive, évidemment, ça aide dans le financement. Donc moi, je suis persuadé que des banques vont faire des opérations en disant, si vous avez une note à 5, eh bien, peut-être que le taux sera un peu inférieur au marché parce que le risque est plus faible. Et donc, il y a une plus-value quasi assurée et on va pouvoir faire tourner, on va pouvoir fidéliser notre client parce qu'il va pouvoir revendre pour acheter un autre bien. Il y a, à notre grande surprise, des experts comptables parce que lorsqu'ils mettent une valeur des actifs dans les comptes de leurs clients, parfois ça varie et ils ont besoin de donner une explication à cette valeur. Et comme cette valeur est projetée, les actifs correspondent aussi à des projets, ça leur permet d'étayer leur approche. Et ensuite, tous les mandataires immobiliers, et les mandataires ou pas mandataires d'ailleurs, enfin les agences immobilières en général. Donc là, c'est un outil formidable, un, pour donner de la crédibilité aux produits qu'ils vendent, en disant, pour pouvoir confirmer à leurs acquéreurs que le risque est maîtrisé. Et parfois, ça peut être aussi un outil intéressant sur des secteurs qui auront peut-être des tendances baissières, de dire à leurs prospects, c'est peut-être le moment de vendre. Si vous aviez le projet de vendre, c'est peut-être maintenant parce que plus tard, ça va baisser. Donc c'est aussi peut-être une volonté de liquéfier un petit peu le marché et de faire un peu bouger les choses.
Et je reviens sur les mandataires. On pourrait imaginer que sur un site d'annonce assez classique, où on a souvent un prix, on pourrait mettre un bouton combien vaut le bien dans 7 ans.
Alors, on le fait déjà. Vous allez sur le site acheterlouer.fr. Il y a un logo de projection et en rapport avec l'annonce qui est en ligne et qui vous donne la projection du produit.
Sur l'annonce ?
Oui.
Directement ?
Oui.
OK. Ouais, donc ça pourrait pousser les acquéreurs, enfin les potentiels acquéreurs qui se posent des questions, quoi.
Exactement. Et ça fonctionne, c'est un petit peu comme la centrale quand on va acheter une voiture. On a ce petit logo qui nous dit hors marché, en dessous du marché, dans le marché, au-dessus du marché. Voilà, c'est un peu la logique. C'est de bien positionner le bien dans son marché.
Ok. Et tu disais aussi, ça peut pousser, on va dire, à l'action certains investisseurs qui hésitent à vendre, par exemple. Donc moi, imaginons, je suis propriétaire d'un bien dans une ville. Concrètement, comment je fais ? Donc je vais sur Kik, kik.fr.
Alors, aujourd'hui, c'est effectivement ouvert aux particuliers. Donc on va kik.ai.
K-I-C-C-K.ai.
C'est K-I-C-C-K. Hein, ça veut dire en fait le coup de pied dans la fourmilière.
Ah oui, donc c'est bien poussé à l'action, c'est-à-dire qu'il faut...
C'est poussé à l'action, il faut y aller. Les choses, en fait, on croit beaucoup, hein, on croit tous que beaucoup de choses sont figées dans la vie. Ben non, voilà, il faut être un petit peu acteur de ce que l'on souhaite, et donc il faut un peu se bouger. Mm-hmm. Donc c'est histoire de faire bouger les choses. Et donc on va sur Kik, et puis on peut acheter un rapport qui coûte... Alors le lancement était de 9,90 €.
Par rapport, ouais.
Par rapport pour un privé, pour un particulier. Là, il est passé au vrai prix qui est de 20 €, mais on va de nouveau refaire des opérations. Mais là, on se focalise à beaucoup développer le B2B parce que on sent une vraie appétence.
Ok, donc ça veut dire que là, on enregistre chez Radio Immo au 124 rue Aumur. C'est-à-dire qu'imaginons, l'immeuble m'appartient, je me connecte, je donne l'adresse, j'imagine, je donne 2-3
critères. La rue t'appartient, non ? C'est pas ce que tu m'as dit.
C'est en cours, c'est sous promesse.
Donc là, tu as kické avant.
Voilà, exactement. Donc là, je rentre des critères sur l'âge de l'immeuble, sur l'état de l'immeuble.
Ça, c'est la phase qui arrive, effectivement. Aujourd'hui, tu rentres l'adresse.
Ouais.
Tu rentres l'adresse, si c'est un bien ancien ou un bien neuf.
Ouais.
Et quelques agréments du type... terrasse, parking, cave, balcon, nombre de pièces, surface. Voilà, donc c'est des généralités. Donc aujourd'hui, on est à ce stade-là. Mais le stade, avec l'année de construction, le type de chauffage, son DPE, etc., etc., ça arrive dans les semaines qui viennent.
D'accord, parce que j'imagine que l'outil, plus le temps va passer, plus il sera précis. Et pour être précis, plus il va agréger de données peut-être nouvelles. J'avais une autre question aussi sur le. On a quand même vécu une année 2020, 2021, 2022 assez compliquée, notamment au point de vue évidemment sanitaire, international, etc. Est-ce que c'est un outil qui arrive à prendre en compte des grosses crises sanitaires, économiques, internationales ?
Alors, excellente question. On a pu faire un backtesting sur les biens qui étaient achetés en 2007, par exemple, avec la crise de Lehman, qui est arrivée après. On est arrivé à un degré de finesse de plus de 80% sur le montant ou le pourcentage de plus-value ou de moins-value. Donc c'est hyper bon. Alors oui, ça peut pas anticiper la crise de Lehman, clairement. Mais on s'aperçoit, et c'est ça qui est assez passionnant dans cette approche, c'est que même une crise de Lehman, finalement, l'effet est assez lissé. Et se dilue quand même assez rapidement dans les 4, 5, 6 ans qui suivent. Donc là, par exemple, on a fait une autre fausse croyance. Ça me fait penser à une autre fausse croyance qui serait très liée à Lehman. C'est que si on prend tous les gens, toutes les personnes qui ont acheté un bien résidentiel en 2007 en France et qui l'auraient revendu dans les 10 ans derrière, 10 ans, 12 ans, 15 ans, selon toi, quelle est la proportion de ceux qui ont réalisé une plus-value ou qui auraient réalisé une plus-value de ceux qui n'auraient pas réalisé ou réalisé une moins-value ? Résidentiel, ensemble du territoire.
Oh bah je dirais 70% a fait une plus-value.
Eh bien non. Eh bien non. Eh bien, en fait, c'est quasiment équilibré. C'est 52% des gens auraient réalisé une plus-value. Et 48 n'en réalisent pas, et surtout beaucoup font une moins-value.
Oui.
Et donc ça c'est très intéressant, c'est que l'adage l'immobilier monte toujours n'est pas forcément vrai. Il y a vraiment des zones en France où l'immobilier ne bouge pas.
Bon, sur le long terme, oui, après tout dépend au moment où on achète et au moment où on vend, quoi. Il faut savoir peut-être être un peu plus patient avant de vendre, quoi.
C'est ce qu'on disait en introduction, hein, pour être performant et créer de la valeur, c'est à l'achat qu'on crée de la valeur.
Ouais. C'est à l'achat, ouais. Et puis savoir vendre aussi au bon moment, mais le kick peut nous pousser à vendre au bon moment. Et c'est quoi les prochaines étapes pour chez Kik, pour intégrer, pour fournir encore plus la donnée ? Qu'est-ce qui manque aujourd'hui comme données ?
Il en manquera toujours. Il en manquera absolument toujours. Un autre exemple qu'on a voulu étudier, c'était est-ce que les couleurs politiques ont une influence sur l'évolution de l'immobilier. On s'est aperçu que ça n'en avait absolument aucune. Les vraies influences, elles sont économiques, elles sont servicielles, elles sont dans les flux, mais elles ne sont pas par une couleur politique, n'a jamais été plus performante sur le secteur immobilier qu'une autre. Donc ça, c'est assez intéressant. En revanche, La data, il va toujours nous en manquer parce que ben, les populations bougent, les civilisations évoluent, l'hybridation du travail a énormément d'influence sur, sur ces marchés-là. Donc ça, c'est des données qu'on va intégrer de plus en plus. Les données environnementales, évidemment, donc ça, c'est l'étape la plus proche. Et après, je vais citer d'autres exemples, il y a des, les expositions, par exemple, aujourd'hui, on constate que l'exposition sud d'un logement n'est pas forcément l'exposition demandée, c'est plutôt la ouest, et peut-être qu'un jour, ce sera la nord, avec le réchauffement. Est-ce que un bien ayant un parking, est-ce que le parking, dans le temps, va avoir de la valeur, alors qu'on a de moins en moins de voitures, etc., etc. Moi, j'ai rencontré quelqu'un il n'y a pas longtemps qui vient de faire un pari en disant « Je vais acheter que des premiers étages à Paris. » Parce que les premiers étages, aujourd'hui, valent rien. Enfin, rien.
Moins.
Je corrige, ouais. Pardon. Moins que les étages supérieurs. Et avec l'arrivée du véhicule électrique et de la piétonnisation des rues, les premiers étages vont prendre une valeur de dingue parce qu'ils n'auront plus ces défauts de bruit, etc. Ils auront un accès à pied beaucoup plus simple que les autres. On monte, on n'a qu'une volée d'escalier à pratiquer, etc. etc. Donc oui, donc c'est ce genre de données qu'on va agréger.
Est-ce que c'est pas du, ça pourrait être pas une nouvelle branche et kick de faire du conseil, du conseil coaching en disant, parce que tu vois l'histoire des premiers étages, on peut pas le savoir du coup.
Le conseil, c'est pas scientifique.
Oui, mais de dire, regardez, il y a une tendance sur l'ensoleillement, il y a une tendance sur le premier étage, il y a une tendance sur ci, sur ça ou sur cette ville. Parce que j'imagine que vous n'avez pas une carte de la France avec du rouge, du vert en fonction de l'attractivité de la ville dans 7 ans.
Alors, ce que tu dis est très intéressant. J'ai été sollicité indirectement par une société qui fait de l'influence pour intégrer KIK dans les grands projets urbains. Donc, ils voulaient savoir si telle ou telle politique urbaine sur certains secteurs aurait une influence sur les prix à moyen terme. Donc voilà. Donc ça, c'est effectivement, on nous le demande. On n'y répond pas pour le moment, mais on va probablement y répondre un jour parce que ça c'est passionnant. Et justement, cet acteur nous disait, ben voilà, on a des datas, on est très présent dans les grandes villes pour aider les politiques locales de ces villes-là. Et on nous demande maintenant d'aller dans des villes moyennes, voire un peu plus petites, pour les accompagner dans des projets urbains. Mais on aurait besoin d'étayer ces volontés pour pouvoir se faire financer et faire venir des promoteurs, ou, voilà, etc.
Et ça, cet outil pourrait être utilisé aussi dans d'autres pays. C'est le même principe de connecter d'autres données dans d'autres pays et de refaire un...
Ouais, les pays en open data. Tous les pays dans lesquels on a de la data, on pourrait dupliquer le modèle.
Ouais. Ouais, il faut que la data soit ouverte. Mais il y a des pays en Europe, dans l'Union européenne, qui ne sont pas ouverts.
Bah, l'Allemagne, c'est plus difficile.
Ouais.
Voilà. En revanche, on peut aller en Espagne, on peut aller en Italie. En fait, le mode DVF qu'on a en France existe dans pas mal de pays.
D'accord.
Et le pays le plus ouvert, bon, bah, c'est les US, évidemment. On n'y est pas encore.
D'accord. Et justement, pour aller aux US, tu me disais qu'il y avait peut-être une réflexion de levée de fonds qui s'organisait chez KIK.
Alors, il y a une levée de fonds qui démarre. Voilà, qui démarre. Donc, c'est notre troisième levée de fonds depuis le début, donc depuis 2018.
Ouais.
On fait une levée de fonds parce que sur la partie invest, la vente de VEFA, on développe énormément. Donc là, il faut qu'on ouvre des bureaux en plus. Donc là, on recrute beaucoup. On a l'objectif d'être à 13, entre 13 et 15 bureaux l'année prochaine. Donc c'est important. Sur la partie KIK, évidemment, toutes ces datas à brasser. Donc il faut encore améliorer le modèle. Il faut encore acheter des datas. Il faut créer nos propres datas. Et puis, évidemment, le marketing, ça c'est toujours un coût. Le marketing, c'est quand même un sujet assez coûteux.
Et si moi, à titre perso, j'ai investi dans KIK, est-ce que KIK peut même faire une prédiction de ce que va valoir la société KIK dans 7 ans?
Alors, j'ai bien peur qu'on doit augmenter en fait la performance parce qu'on va devoir être à 200, 300, 400, 500 ou 600% pour que tu puisses abonder un peu plus.
Bon, parce que ça, c'est peut-être...
Mais on l'a fait sur Baltis.
Ah bon?
Ouais, je regrette de ne pas avoir investi.
C'est ton outil qui avait dit ça. Ça marche. Bon, écoute, Benoît, c'est passionnant. C'est un nouveau segment qui, je pense, est un peu au début encore, parce que je pense qu'il y a beaucoup de données à agréger. Je pense que s'il y en a qui nous écoutent, ils sont peut-être en train d'essayer de se rassurer déjà sur leur propre bien immobilier, leur résidence principale, savoir est-ce qu'ils ont fait une bonne affaire il y a quelques années. En tout cas, je vous invite tous à aller faire le test. Peut-être qu'on mettra dans les commentaires un petit code promo l'immobilier dans le bon sens pour.
Avec joie.
Pour essayer d'inciter et donner un petit kick à tout le monde pour faire au moins une première estimation sur leur propre bien immobilier.
Et si Bercy nous écoute, peut-être qu'on peut les aider à faire de la projection sur les taxes foncières à 7 ans.
Voilà, Bruno, je sais que tu es un fidèle auditeur, donc voilà. Sache que Benoît est à tes dispositions. Merci beaucoup, Benoît. Bravo pour ce.
Merci, Alexandre.
Pour ça. Et puis, on se donne rendez-vous sur kick.ai pour aller voir tout ça. À bientôt.
Merci, Alexandre.
Salut.
L'immobilier dans le bon sens, à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et toutes les plateformes de streaming.